26 janvier 2012 sur les ondes de CKRL 89.1, c'est La Vie en BD qui débute. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, de retour après une petite pause des fêtes. Et si vous nous suivez via Facebook ou via le blog, eh bien, vous savez que ce soir, eh bien, on vous offre une émission à saveur plutôt rétrospective. Alors l'idée est de revenir un peu en arrière, un peu à savoir best-of aussi, tiens, allons-y avec ce terme-là, dans la mesure où on vous propose ce soir donc quelques-unes des entrevues qu'on a réalisées l'automne dernier, bien entendu quelques-unes, c'est une infime portion puisqu'il y en avait quand même plusieurs. Alors ce sera la première étape en fait de notre rétrospective 2011 puisque la semaine prochaine on aura plusieurs personnes autour de la table, nos collaborateurs, des collaborateurs invités également, et là on vous offrira nos coups de cœur bande dessinée pour 2011. Donc ça c'est la semaine prochaine, et pour cette semaine eh bien on parle plutôt d'un retour sur quelques entrevues. Alors, qu'est-ce qu'on vous proposera au fil des prochaines heures, des prochaines heures, de la prochaine heure, voilà, je retourne tranquillement dans mes pantoufles. Alors, on vous propose notamment des entrevues avec Hervé Bourris, auteur donc du petit livre Rock, ou du petit livre Beatles. On vous propose également une entrevue avec Maryse Dubuc ce duo donc de La Fée Dubuc qui nous offre les Nombris, bande dessinée incontournable du paysage québécois. Il y aura également une rencontre avec Michel Rabagliati qui vous sera proposée à nouveau. Et pour commencer, pour lancer le bal, si l'on peut dire, eh ben on vous propose une rencontre qu'on a fait en mi-saison, approximativement, avec l'équipe de la Chope à Bulle. Alors, Jean-François Bergeron, alias JF, et Richard Valerand. Vous vous rappelez peut-être de ça. Ça s'est beaucoup jasé également dans les médias. C'est une chouette nouvelle, en fait, pour l'hiver de la BD, puisqu'on s'était dit à l'époque, et on aurait dit, en fait, s'il y a un atelier de création en BD, en fait, des créateurs qui se regroupent pour créer, pour écrire, dessiner dans un même lieu, mais ça montre qu'il y a quand même aussi une scène BD à Québec qui se développe de plus en plus et qui commence tranquillement à se lancer sur des airs d'aller. Alors, ben, c'est la première entrevue qu'on vous propose aujourd'hui, à cette rencontre avec JF et Richard Valerand. JF et Richard Valerand, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, en fait, peut-être petite définition. La Chope à Bulle, c'est pas un atelier de création collective, mais c'est de la création en parallèle, donc un même lieu, plusieurs projets, plusieurs créateurs.
Ouais, c'est ça. On n'est pas une entreprise. On ne fait pas des contrats à trois sur de la bande dessinée. On est vraiment trois auteurs indépendants.
Et qu'est-ce qui vous a amené à décider justement de vous regrouper de cette façon-là, de dire, ben OK, on reste travailleurs indépendants, mais on aimerait ça travailler dans un lieu commun?
Ben, premièrement, Charles.
Ben, je vais te laisser commencer, Jeff, parce que c'était ton initiative, donc tu avais des bonnes raisons de vouloir faire ça.
Moi, c'est vraiment pour briser la solitude, là, parce que on a travaillé à la maison pendant 5 ans sur à faire de la bande dessinée, tout seul. On a toujours Internet pour être en contact avec le monde extérieur, donc avec nos scénaristes puis l'éditeur, tout ça. Mais de pas travailler avec ses pairs, ben ça devenait finalement assez lourd avec le temps. Puis comme mes enfants étaient rendus assez grands, je me suis dit, tiens, c'est le temps de m'installer, de revenir finalement en ville, parce que bon, j'ai déjà travaillé dans le domaine de jeux vidéo au centre-ville, puis ça me manquait ce bouillonnement-là d'être à Québec.
Oui, parce qu'on parle beaucoup en fait du télétravail, que c'est plaisant, on peut travailler à la maison, mais on le voit dans plein de domaines, en fait, les travailleurs autonomes, dans le fond, se donnent des lieux où travailler ensemble, parce que Je veux pas, ça vient plate, j'imagine, travailler tout seul. Là.
Ouais, ben, moi, je suis habitué de travailler dans le monde du jeu vidéo aussi. Là. Je viens de ce milieu-là aussi, comme par hasard. Et c'est comme ça que j'ai connu Jeff. Puis c'est sûr que c'est un milieu qui est très stimulant parce que tu es entouré de plein de gens créatifs. Puis c'est sûr que de se retrouver à faire de la bande dessinée, ben, ça fait quand même. C'est vraiment une autre approche. Puis donc, c'est intéressant de pouvoir retrouver ça, là, d'une espèce de trouver d'autres créatifs autour de toi, tu sais, qui travaillent sur le même genre de projet que toi. Puis donc, c'est super stimulant.
C'est d'avoir aussi un regard extérieur, finalement, notre travail, d'avoir des gens qui connaissent le métier, qui savent de quoi qu'on parle, puis de se retrouver finalement à regarder un peu notre travail, nos planches, voir si justement ce qu'on fait, ben ça marche, si on n'est pas dans le champ, si justement on est dans la bonne voie. Parce que quand on travaille sur nos pages, on est toujours la tête dans le guidon. Faut vraiment finalement livrer le plus vite possible. Puis on n'a pas le recul souvent sur notre travail. Donc d'avoir des gens compétents, d'avoir des gens artistiques finalement autour de nous qui peut juste regarder, juste lire nos textes, voir si notre séquence fonctionne, si justement la pose de nos personnages sont bien dessinés. Tout ça, ça vient améliorer notre travail.
Aussi, il y a un intérêt donc dans le partage d'expérience, en même temps dans le partage j'imagine de techniques, de perspectives. Vous êtes à trois stades différents dans votre carrière, des spécialisations qui sont pas les mêmes non plus, en fait, du moins de ce que j'ai cru en voir via les blogs. Donc il y a une richesse aussi justement à pouvoir mettre tout ça en commun pour que JF tu puisses commenter sur les réalisations de Michael, de Richard Valrand, et je pense que Michael a porté un regard extérieur justement sur White Crow au fil de l'été.
Ouais, c'est ça. Ben, d'ailleurs, c'est de là qu'on a justement sorti l'idée d'être en atelier toutes les deux, parce qu'on se disait, si on pouvait être ensemble, justement travailler dans le même espace physique, ça serait plus simple que de toujours s'envoyer des courriels comme ça. Et puis, ben, c'est ça que Richard, justement, s'est joint à nous aussi. Mais en même temps, on n'est pas là pour finalement changer le style de l'autre pour qu'il nous ressemble. Là. On n'est pas là non plus pour faire, je sais pas moi si Richard travaille. On a trois styles différents, donc tu sais, on est complémentaires finalement.
C'est ça, ben on le disait tout à l'heure, en fait, c'est pas des projets collectifs, c'est des projets individuels, mais que vous travaillez dans un même lieu. Un peu sur le principe d'un atelier d'artiste aussi, si on fait le jeu des parallèles, que ce soit Bloc 5, que ce soit d'autres ateliers aussi à Québec.
Ouais, puis je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un feedback de quelqu'un qui fait la même chose. Donc donc c'est pas comme avoir le feedback de quelqu'un qui est extérieur, donc c'est des gens qui connaissent le processus de création, puis qui sont très respectueux aussi du travail des autres. Donc ouais, ça, c'est quelque chose
qui... On sait tous dans quoi on s'embarque quand on fait une BD. On sait tous le travail qu'on a à mettre sur chaque planche. Puis donc c'est pour ça que, dans le fond, on aurait pu être un atelier avec un artiste en art visuel, un musicien, puis faire une espèce de melting pot. Mais là le fait d'être trois auteurs de bande dessinée, on parle tous le même langage.
Puis, en même temps, j'espère, étant de l'extérieur de ce milieu-là, je reçois ça un peu comme une bonne nouvelle, parce que je me dis, si on en est rendu au point où il y a des BDistes à Québec qui disent, OK, on se prend un local, on travaille, on s'organise, mais ça, c'est signe que le milieu de la BD à Québec va bien aussi.
Ben, je pense que oui. Je pense que depuis quelques années, en tout cas, il y a de plus en plus d'auteurs qui émergent et puis qui publient soit au Québec, soit en Europe, puis qui sont justement installés à Québec.
Mais c'est vrai que je pense que c'est super positif, parce que c'est ça qu'il y en a toujours eu, je pense, un peu de la bande dessinée à Québec, même autre vie, quand je travaillais dans le jeu vidéo, on engageait beaucoup de gens dans le milieu de la bande dessinée, parce que parce qu'il y avait de la misère à arriver aussi, ils gagnaient leur vie aussi dans le monde du jeu vidéo. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle qu'on soit regroupés comme ça, parce que c'est c'est qu'on fait ce métier-là à temps plein, donc on se consacre complètement à ça. Puis aussi, on veut aussi que cet atelier-là soit une sorte, fasse partie de la dynamique là, de la BD à Québec. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des rencontres à plusieurs BDistes là, pas loin de l'atelier à tous les jeudis. Puis puis aussi on a des fois des artistes invités là, une fois de temps en temps, qui vont venir passer un après-midi avec nous autres.
Parce que j'ai l'impression que ça manquait un peu à Québec. Il y en a des ateliers comme ça à Montréal qui fonctionnent bien, mais il n'y en avait pas encore à Québec, malgré le fait, comme on disait, Richard, qu'il y avait quand même un milieu assez actif là.
C'est peut-être plus une tradition européenne là, donc puis il y en a beaucoup en Europe, je pense. T'en as visité là-bas.
À Bordeaux, entre autres, là, il y en avait au moins trois.
Puis à Montréal, il y en a quelques-uns, un atelier, mais c'est beaucoup des Européens qui sont installés à Montréal.
Il y a aussi des Québécois qui sont installés.
Il y a aussi
des
Québécois aussi qui sont
qui font soit du comics du côté américain ou encore de la bande dessinée du côté européen.
Puis il y a eu aussi, un regroupement là, de comics à Québec à un moment donné. Mais c'était une compagnie.
C'était une compagnie.
Donc, nous autres, on est vraiment un atelier. C'est vraiment la différence.
Et quand on se dit, OK, bon, il faut s'organiser, il faut se faire un atelier, aller travailler un peu à l'extérieur, je me dis aussi, côté création, que ça implique que vous vous levez le matin, vous allez travailler, vous allez créer, et à un moment donné, la création s'arrête, à moins d'être dans un gros rush. Donc, il y a quand même, vous passez un peu par une certaine routine, entre guillemets, de travail pour développer les albums, développer vos projets. C'est pas selon l'inspiration poétique dans un parc.
Mais même travailler à la maison, c'est aussi, il y a aussi une routine à créer, parce que sinon, on peut pas avancer. On peut pas se dire, je vais y aller selon mon inspiration. Non, c'est à chaque jour, tu te lèves le matin, tu t'assois de ta table à dessin, même si ça te tente pas, même si t'as pas envie ou si ça sort pas, là, comme on dit, t'as pas l'inspiration, tu dessines pareil. T'as pas le choix, tu fais ta planche.
Ça te prend une bonne discipline aussi. Il faut que tu te prévois ton horaire cette semaine, qu'est-ce que je vais faire, puis t'essaies de respecter ça.
C'est ça. Puis si ta planche est pas, si t'es pas satisfait du résultat, tu continues pareil, tu reviens dessus par après s'il faut, mais faut avancer. C'est ça qui est important.
On va pas bloquer sur une planche, puis dire, OK, j'ai passé une semaine sur cette planche-là, je suis pas encore content.
En tout cas, moi, personnellement, là, je parle pour moi. Il faut que j'avance, donc je peux pas me permettre de dire, j'ai passé 3 semaines sur cette page-là parce que j'étais bloqué artistiquement. Tu fais tomber les planches, puis t'avances.
Même perspective de ton côté, Richard?
Oui, en fait, plus moins longtemps, donc j'apprends beaucoup là auprès de Jeff puis Michael, puis justement c'est une super inspiration de voir ça parce que je viens vraiment plus du monde du dessin animé, puis après ça jeux vidéo, mais je pense que ce que j'aime beaucoup dans la BD, c'est que tu peux être vraiment seul maître à bord, là. T'as pas besoin d'avoir des grosses équipes, tu peux vraiment raconter tes histoires, t'as pas de limites.
Ça
je trouve ça bien intéressant, mais le fait d'être en atelier comme ça, parce que c'est quelque chose que je réalise, c'est que c'est très long faire une bande dessinée comme c'est très long faire un dessin animé, là. Donc je pense que ce qui est au-delà de la critique, tout ça, tu sais, d'avoir comme du feedback, c'est aussi les encouragements. C'est super encourageant de voir d'autres BDistes autour de soi, parce que tu sais que c'est long, puis eux autres le savent aussi, fait qu'on s'encourage, puis on se donne des tapes dans le dos aussi. Donc,
et d'ailleurs, côté projet, Richard Valeran, vous travaillez, il me semble, sur un projet avec Philippe Girard?
Oui, je développe un projet avec Philippe Girard, qui m'a approché là, avec un de ses scénarios, donc je trouve ça super intéressant là, de pouvoir commencer à travailler avec un autre auteur, puis en même temps, je développe j'ai un projet là, qui est en développement avec un producteur en animation. Puis comme l'animation c'est très long, j'ai décidé de le développer en bande dessinée en parallèle. Donc c'est basé sur une histoire qui est à moi. Donc j'ai deux projets en parallèle là, que je développe. Puis c'est ça en ce moment.
Et Jeff, de ton côté, de ce que j'ai compris sur le blog, sur ton blog, en fait, White Crows tome 2, c'est pas mal complété, là, c'est le Crépuscule des Dieux 6.
En fait, le Crépuscule des Dieux 6 est complété.
OK, c'est l'inverse.
Et White Crows, là, je le commence.
Je savais qu'il y en avait un qui était fini, là.
C'est ça. Ouais, donc j'ai terminé le cycle, finalement, le cycle de l'anneau, là, du Crépuscule des Dieux. C'est vraiment le mythe nordique qu'on voulait adapter en 6 albums. Donc ça, c'est terminé. Il va y avoir un deuxième cycle, il va y avoir une suite finalement à tout ça. Mais avant de m'embarquer dans le tome 7 du Crépuscule, j'ai le tome 2 de White Crows à produire. Ce qui veut dire que là, je suis à temps plein sur White Crows jusqu'en juillet de l'année prochaine.
En fait, les bureaux de la Shop à Bulles seront bien remplis. Ouais. Michael aussi qui travaille sur ses projets de son côté. Si les gens d'ailleurs veulent voir un peu ce que vous faites, s'ils ne vous connaissent pas déjà, www.jf.com, sinon rickyswork.blogspot.com pour Richard Valeran, Michael, www.michaelbd.com. Et en terminant, est-ce que la Shop à Bulles, on veut garder ça à 3 ou s'il y a d'autres créateurs de BD qui vous approchent, qui disent « Ah, mais j'aimerais s'embarquer avec vous autres. »
Pour l'instant, on est 3, on n'a pas tellement de place. Il y a de la place pour 3. Donc, on reste à 3. Mais pour les années futures, on verra.
On verra si on a un autre local éventuellement, mais pour l'instant, ce local-là, c'est ça. On a aussi une page Facebook, la Shop à Bulles, donc pour si vous voulez devenir fan.
d'autres manières de suivre justement nos BDistes.
Exact.
Et voir, et je vais faire un très mauvais jeu de mots, voir aussi si l'idée de s'associer comme ça allait faire bulle de neige. J'annonçais qu'il était très mauvais. Alors, BGF, Richard Valran, merci beaucoup à vous deux.
Merci. Merci, ça fait plaisir.
Ici à CKRL, Raymond Poirier toujours avec vous. Je vous rappelle d'ailleurs l'adresse du blog de l'émission, lavieenbd.wordpress.com. Si vous voulez bien entendu nous suivre, avoir plus d'informations, trouvez aussi les émissions précédentes en podcast. Et on poursuit de notre côté avec ce retour en arrière qu'on vous offre ce soir, une deuxième entrevue qu'on vous propose en rediffusion. Et quand on parle d'albums qui étaient attendus à l'automne 2011, eh ben c'est un peu incontournable de mentionner Paul au parc avec le grand succès, autant critique que public, qu'avait connu Paul à Québec en 2008-2009. C'était aussi un peu incontournable que le nouvel opus soit extrêmement attendu. Il est arrivé à quelque part en novembre et on a eu le plaisir à cette occasion-là de rencontrer l'auteur Michel Rabagliati. Alors, on vous propose cette entrevue ici à l'émission.
Michel Rabagliati, bonjour.
Bonjour.
Alors, Paul au parc, en fait, c'est un retour en arrière. Et si on fait le comparatif avec Paul à Québec, c'est un retour un peu plus loin en arrière. Est-ce qu'on avait envie, dès le départ, là, de faire une césure avec l'époque peut-être un peu plus contemporaine de votre avant-dernier Paul?
Oui, c'est assez juste. J'avais envie peut-être de revenir en arrière et puis d'aller balayer un peu dans les coins ce qui restait de l'enfance de Paul. En fait, j'avais débuté la série un peu rapidement avec Paul à la campagne, qui était une espèce de, en fait, une bande dessinée pour me distraire. J'ai fait ça sur le coin de la table. Ça contenait seulement 24 pages. On retrouve Paul à une douzaine d'années à son chalet avec ses parents. Puis bon, il revient sur ses souvenirs. Mais c'était le seul épisode d'enfance de Paul. Et puis, je trouvais que j'avais encore de la matière à aller explorer dans ce coin-là. Fait qu'on pourrait dire que Paul au parc, c'est un peu le numéro un, si vous voulez. C'est là qu'il est le plus jeune. En fait, je pourrais peut-être revenir à l'état de fœtus, mais peut-être un jour. Mais là, dans celui-là, il y a 10 ans, puis j'explore un peu plus en largeur. C'est quand même un livre de 160 pages sur la jeunesse de Paul.
Et c'est un peu l'âge, en fait, où naissent les rêves, où naissent pour Paul et par extension pour vous, la passion, le désir de faire de la bande dessinée.
Oui, c'est quelque chose que j'avais envie de transmettre un peu au lecteur, puis bon, peut-être aux jeunes aussi en même temps, ça arrive comme ça. Moi, je suis tombé sur un livre quand j'étais enfant qui s'appelait « Comment devenir créateur de bande dessinée ». C'est un livre mythique, ça, parmi les auteurs de bande dessinée. Aujourd'hui, tout le monde se souvient un peu de ce livre-là, ou enfin, aujourd'hui, il a disparu, mais c'est un livre qui expliquait comment on fait de la bande dessinée, mais pas dans le sens comment on dessine, mais quel est le métier qu'est-ce que c'est le métier d'auteur de bande dessinée, comment il faut faire, quel matériel il faut prendre. On parle même des éditeurs, on parle même de là-dedans combien ça paye une planche de bande dessinée, qu'est-ce que ça demande comme habilité. Puis ça, c'est très intéressant. C'est un livre qui a été écrit par Franquin et Jigé dans les années... En fait, ça date de 69. Et puis j'avais été un peu... j'étais tombé un peu sur le derrière quand j'étais tombé sur ce livre-là. Je l'ai lu, relu, je sais pas combien de fois quand j'étais jeune. Ça me passionnait, ce livre-là.
Et ça vous a influencé. On voit Paul, justement, dans le livre qui essaie ses premières armes, premières planches. Est-ce que ça a été une occasion pour vous aussi de revenir sur comment vous aviez tenté initialement de vous lancer là-dessus avant une pause qui vous a ramené éventuellement à la bande dessinée en cours d'année 90, je crois?
Oui, c'est ça. En fait, ça m'avait encouragé à y aller. Puis moi, je suis quelqu'un qui... j'aime beaucoup explorer. Donc, si j'écoute de la musique, un guitariste, tout ça. Quand j'étais enfant, j'ai voulu jouer de la guitare jeune aussi parce que mon animateur scout en jouait. D'ailleurs, on le voit dans le livre, c'est lui qui m'apprend à jouer de la guitare. Et puis, bon, mine de rien, ça m'a mené vers le piano, l'accordéon, tout ça. C'est un livre aussi sur le mentorat. Moi, j'ai été très chanceux. J'ai eu des animateurs scouts très, très allumés et puis très près de nous qui essayaient de nous inculquer des valeurs aussi philosophiques de la vie et puis tout ça. Puis qui étaient très généreux de leur temps. Donc, j'en ai profité. Et puis, bon, c'est un peu un hommage à ces gens-là aujourd'hui que je vois plus, mais qui, tu te rends compte finalement en vieillissant, tu dis, mon Dieu, ces personnes-là ont été finalement pas mal plus importantes que je pense dans ma vie.
Et en même temps, c'est intéressant parce que on sent justement sur le mouvement scout, sur le passage de Paul, votre passage à l'intérieur de ce mouvement-là. Et initialement, en fait, quand on pense scout, on pense au côté ringard. Après ça, il y a un côté de nous qui dit, ah mon Dieu, scandale sexuel. et l'image que vous en proposez, au contraire, en fait, est extrêmement positive, extrêmement stimulante aussi.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mouvement scout souffre d'une espèce d'image poussiéreuse, Baden-Powell-esque un peu. On pense un peu aux cadets, on pense un peu paramilitaire, on pense aussi hyper catholique, de droite, coincé, en retard. En fait, c'est pas du tout ça. Le mouvement a continué de prendre l'expansion. Les animateurs d'aujourd'hui, c'est pas les animateurs d'hier. Et puis, il n'est pas seulement question de bondieuserie. C'est sûr que le mouvement scout était un peu main dans la main avec, l'Église catholique et tout ça, mais moi, je vois rien de mal de toute façon. Je veux dire, j'en ai tiré que du bonheur. Je veux dire, les valeurs qu'on nous inculquait, c'est des valeurs normales de partage, d'amitié, d'environnement, et puis tout ça, ça n'a pas changé. Moi, je suis pas devenu un prêtre à cause de ça. Ça nous portait à réfléchir, en fait. Quand est-ce qu'on a l'occasion aujourd'hui, aux primaires, de s'asseoir en rond autour d'un feu, puis de parler de la vie, parler de pourquoi on est sur Terre, puis parler de protéger la nature, des animaux, tout ça. Je pense que c'est vraiment, le scoutisme est un lieu à part pour les jeunes. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est encore bon. Moi, je serais très content que ma fille y aille. Je veux dire, bon, elle n'y a pas été, je l'ai encouragé quand elle était, ça y tentait pas. Mais c'est quelque chose que je l'ai encouragé pour ça, puis bon, ça n'a pas pogné avec elle, mais le mouvement scout reste quelque chose de bon, moi je pense, pour les jeunes, en marge de l'école, parce que justement, c'est pas l'école, c'est on apprend à faire des nœuds, on apprend à se débrouiller, on apprend à être en nature, bon, nager, virer un canot à l'envers, je sais pas trop, faire des randonnées, on apprend la valeur de l'argent, on peut apprendre n'importe quoi là-dedans. Les animateurs ont un paquet de trucs pour nous amener sur des sentiers qu'on connaît pas.
Oui, et à l'intérieur de ça, on parlait de mentorat tout à l'heure, d'apprentissage aussi. Dans le fond, Paul au parc, c'est un peu un côté épisodique, en fait, où on voit un peu d'où Paul vient, on voit ce qui l'a marqué, ce qui a fait de lui, justement, ce qu'on découvre au fil des albums par la suite, c'est ses premières influences, la famille aussi. Donc, il y a un côté très épisodique au récit que vous nous proposez.
Oui, c'est un peu la jeunesse du personnage. Si je pense que les gens qui connaissent la série vont en apprendre plus sur le personnage, d'où il vient, c'est quoi ses influences. Par exemple, j'illustre là-dedans que moi, mes grands-parents, c'était des Européens. C'était ma grand-mère qui était parisienne avec sa sœur, qui était également une Parisienne, qui sont emmenés au Canada. Bon, mon grand-père est décédé très jeune. Et puis, bon, ces deux familles-là ont dû se débrouiller dans la vie, se trouver du travail. Et puis, bon, on habitait quasiment avec eux dans la maison. Ça, on le voit plus, on voit ça dans l'album, ce qu'on voit pas dans les autres albums. C'est la première fois que j'aborde comme ça la belle famille de ma mère. Et puis, il y a aussi, Aline, donc la mère de Paul, qui souffre un peu de ça, de cette promiscuité-là avec sa belle famille qui est un peu trop présente à son goût. Donc ça, ça ajoute un peu au personnage, ça ajoute de la viande sur l'os un peu au niveau de Paul. On sait plus d'où il vient, quelles ont été ses influences. Quand il était jeune, il regardait, qu'est-ce qu'il regardait à la télé, comment ça se passait dans les années 70, comment il se comportait avec ses amis.
Oui, puis il y a tout le FLQ aussi que vous avez greffé derrière ça en trame de fond pour nous situer, mais en même temps, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la proposition que vous faisiez là-dessus, c'est qu'on le voit et on voit ces événements-là, mais vraiment à travers les yeux de ce personnage, de cet enfant à son âge, à une dizaine d'années, quoi, et on a sa compréhension à lui, là.
Ben, c'était une occasion en or, en fait, parce que je voulais parler de scoutisme. Moi, mes années de scoutisme se sont déroulées pendant les années aussi du FLQ. Je veux dire, je suis de Montréal, donc à Montréal, ça brassait pas mal, énormément de graffitis dans les rues, les bancs de parc, tout ça. On savait pas trop c'était quoi. Même nos parents savaient pas trop c'était quoi, hein. Dans le fond, le FLQ, évidemment, tout ça, ça a été dévoilé plus tard, mais je veux dire, on avait l'impression que le FLQ, c'est une espèce d'organisation tentaculaire. Et puis, quand on est enfant, quand on reçoit ces informations-là de nos parents, on regarde ça à la télé, on voit un peu des titres des journaux, mais on a 10 ans, on sait pas trop c'est quoi. Fait que moi, je m'imaginais que le FLQ, c'était des espions en imperméable avec des lunettes noires, puis un peu comme dans James Bond, c'est tout ça. Fait que c'est ça qui est dans les yeux de Paul. Paul a pas de commentaire à faire là-dessus, c'est juste qu'il est enfant pendant les événements d'octobre 70. Ces trucs-là arrivent, puis il regarde ça à la télé avec ses parents, et puis il a sa petite idée là-dessus, mais en même temps, j'explique quand même au lecteur c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il faut aller jusqu'au bout si on est pour s'aventurer sur ces sentiers-là, s'il faut raconter un peu l'histoire du FLQ. Donc, je raconte quand même les enlèvements, etc.,
pour garder le contexte, là.
Quand ouais, je mets le lecteur en contexte, parce que bon, ces albums-là s'en vont quand même en Europe, en Suisse, en Belgique, ça s'en va un peu partout. Fait qu'il faut que je pense à mon lecteur là-bas qui a aucune espèce d'idée de c'est quoi les événements d'octobre ici.
Et d'ailleurs, ça doit être intéressant et assez particulier aussi, j'imagine, dans un sens, donc de proposer comme ça des récits qui sont en bonne partie inspirés justement de vos souvenirs, de votre vécu, et de savoir que autant au Québec, il va avoir une résonance, il y a un lectorat qui attend. Je veux dire, Paul à Québec, ça a eu un succès fou, et à l'international aussi, où il y a une très très belle réception. Donc de savoir que vos souvenirs vont intéressent autant de gens, j'imagine que ça doit être satisfaisant, mais ça doit mettre quand même aussi une certaine pression en disant mais faut que je les raconte bien, faut que je chippe des bons épisodes, des bons moments.
J'essaie de faire des livres. Moi, évidemment, ce que je fais, on appelle ça, bon, certains disent autobiographique, mais c'est pas tout à fait juste. C'est de l'autofiction, le vrai mot pour moi. Bon, évidemment, les épisodes de fiction, on les sent pas dans les Paul parce que c'est plausible. Tout est plausible dans Paul. Donc, c'est très difficile de déceler ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, parce que, bon, ça se passe à Rosemont, à Montréal, puis tout est absolument plausible là-dedans. J'essaie toujours de faire un récit intéressant, captivant, où est-ce qu'il y a des surprises, même si c'est tiré de la vie quotidienne, c'est tiré de ma propre vie. Moi, ma propre vie m'intéresse pas au premier degré. C'est peu intéressant. Je pense toujours au lecteur à l'autre bout. Est-ce qu'il va avoir du plaisir à recevoir ça? Si oui, ben alors là, ça vaut la peine de l'écrire et puis de l'informer aussi. J'ai toujours une espèce de tendance à faire d'éducation dans mes albums, c'est-à-dire parler de quelque chose que le lecteur connaît pas. Dans Paul à Québec, c'était les centres de soins palliatifs. Comment ça se passe en centre de soins palliatifs, etc. Dans Paul au parc, ben c'est ça, c'est le scoutisme. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent plus le scoutisme. Je les informe, mais vraiment pas en moralisateur, mais juste comme ça, en observateur. Voici ce que moi j'ai vécu dans les scouts. Voici ce qu'était le FLQ pour moi. Et puis voici comment vivaient mes parents et comment était la société dans les années 70. J'essaie de faire un récit intéressant avec ça.
et d'essayer de creuser, d'essayer de voir justement ben, quel épisode, quel élément peut me servir de bonne matière première, j'imagine, pour réussir à bien le développer. Comme vous disiez, en fait, tout dans nos vies n'est pas nécessairement palpitant, mais chacun a dans sa vie des épisodes qui peuvent être bien racontés, qui peuvent être bien mis en scène, dans le fond.
Absolument. Je dis tout le temps, moi, de toute façon, quand j'aurai plus de sujet pour mes pôles, ça me fait pas peur, parce que vous, moi, n'importe qui, a tellement de portes des histoires intéressantes à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a envie de devenir auteur de bande dessinée, romancier, cinéaste, mais plus je parle avec les gens, plus c'est fou comment je me rends compte, comment les gens ont des choses intéressantes à raconter sur leur vie qui pensent être ordinaires, mais qui finalement, pour quelqu'un comme moi qui est à l'affût de matières premières tirées du quotidien, pour moi, il y en a partout. C'est assez fou. Des gens ont des aventures ou des aventures de vie fabuleuses, des fois, et puis ils savent pas, en fait.
Et le défi, c'est ce que vous relevez bien, à mon sens aussi, Michel Rabel-Gliati, même très bien, oserais-je dire, là, c'est justement de réussir à le rendre, en fait, le côté auteur, le côté metteur en scène. Il faut scripter tout ça, et c'est le travail de première ligne, j'imagine, écrire avant de dessiner ou...
Oui, ben ça c'est le travail d'auteur. Vous avez tout à fait raison. C'est là que ça se passe. C'est qu'il faut fabriquer, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Il faut essayer de voir quelle matière peut être intéressante à travailler. Ça c'est là qu'est la magie un peu de l'auteur. Là, c'est là qu'il faut. Bon, Michel Tremblay travaille de la même façon. Dans le fond, ses souvenirs d'enfance doivent tenir sur 2 pages, mais il en a fait 40 romans, puis je sais pas combien de pièces de théâtre. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, puis qui va vraiment dans les coins, puis il va vraiment développer des personnages peut-être seulement entreaperçus dans sa vie quand il était enfant, puis il y a une très grande habilité à faire ça. Dans le fond, sa matière première, c'est très limité. Michel Tremblay, c'est pas quelqu'un qui a fait des voyages autour du monde, puis qui a coupé des lianes. dans, à travers la jungle, puis qui a traversé l'Amazonie. C'est quelqu'un qui est, c'est quelqu'un de Montréal, mais qui est une sens, qui a une sensibilité extrêmement aiguisée, puis qui, bon, peut faire fleurir des petites graines comme ça dont on se doute pas, mais il peut vraiment aller très loin avec sa matière première, qui est dans le fond seulement une vie de Montréalais ordinaire.
Et justement, de quelle manière un peu vous procédez? Est-ce que c'est d'abord justement un gros travail de scénarisation sur papier, c'est dire, ben voici, ça va être les épisodes, essayer de définir par planche, écrire, ou est-ce qu'on passe rapidement vers le dessin?
Oh ben au départ, moi je fais comme un romancier, c'est très straight, je travaille un peu comme Hergé, là je me rends compte en lisant sur Hergé, les aventures de Tintin étaient un peu construites comme ça, donc Hergé s'assoyait, prenait des notes, faisait un synopsis, donc une espèce de scénario résumé, bon Tintin s'en va là, Tintin s'en va là, ensuite il se mettait au découpage, mais les découpages d'Hergé, c'est très peu fouillé. C'est des bonhommes allumettes, là. Lui aussi, il s'en allait, il faisait des découpages très rapides pour voir si ça fonctionnait. Ensuite, il s'en allait vers un crayonné plus précis. Ensuite, vers un autre crayonné encore plus précis, puis de l'ancrage, puis bon, recherche de décors, documentation. Évidemment, Hergé allait beaucoup plus loin que moi, là, au niveau des décors, des véhicules et tout ça. Mais c'est un peu la même façon de fonctionner. Faut j'y vais avec un synopsis, moi aussi, au départ. C'est écrit. Ça, c'est malléable quasiment tout le long du processus. Donc, c'est simplement écrit. Donc, avant de dessiner, moi, je veux avoir un canevas, une grille assez précise avant de me lancer dans les dessins, parce qu'il faut pas oublier qu'en bande dessinée, c'est extrêmement long. Là. Je passe 2 ans sur un album, donc il y a 2 années de ma vie qui passent là-dessus. Fait qu'il s'agit d'avoir un synopsis assez solide avant de se mettre à faire des dessins. Là.
Et justement, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? Il y a Paul à Québec, le film qui est prévu, je crois, pour dans quelques années. Est-ce qu'il y a un autre Paul Papier aussi qui...
Si je me regarde aller, je veux dire, depuis les 10 dernières années, les sujets sont venus à moi un peu seuls. C'est-à-dire, après, j'en lance un, et puis bon, j'attends un peu de voir les échos des lecteurs, et puis tout ça, puis bon, quelques mois plus tard, j'ai plus rien à faire, je m'emmerde, je me tourne les pouces, fait que là, je me mets à écrire quelque chose, puis finalement, ça prend forme, ça prend la forme d'un synopsis. Ensuite, je me mets au découpage, puis ça va tout seul. Il s'agit d'avoir un sujet qui me tient à cœur, qui m'énergise assez longtemps pour que je sois prêt à travailler là-dessus 2 ans, mais ça se profile toujours un peu de la même façon. Là, c'est sûr, il y a un film à faire, il y a Paul à Québec, j'aimerais donc mettre plus de temps là-dessus avec le réalisateur. D'ailleurs, on travaille intensément là-dessus ces temps-ci. On est à l'écriture, on est à la deuxième phase d'écriture, on est au scénario dialogué, c'est très intéressant comme travail. Donc ça, je crois que je vais un peu finir un peu le film avant de me remettre à une bande dessinée, là.
Alors bon, d'ici là, on peut lire et relire. Donc, Paul au parc, disponible aux éditions La Pastèque. Michel Rabagliati, merci beaucoup.
Ça a été un plaisir.
Vous avez l'oreille curieuse, vous recherchez des sons différents, vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante, mais pleine de sens. Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission en art audio et électronique animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. Tous les dimanches à 23h, La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Remember how I'm going to live forever. Lundi, 17h30, le théâtre et la danse sont à l'honneur au 89.1 avec les Enfants du Paradis, en compagnie de Robert Boisclair. Seulement au 89.1. C'est KRL 89.1. Cultive tes goûts. Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
Toujours à l'écoute de
CKRL 89.1, La vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, toujours dans cette rétrospective entrevue de l'automne. Et j'en profite également pour vous informer, à compter de demain, il y aura un nouveau site web, à savoir culturel, qui sera lancé, qui sera disponible autour de la scène culturelle de Québec, des environs, et un peu plus largement également. Je mentionne parce que j'aurai le plaisir pour ce site de faire faire quelques petites collaborations autour justement de l'univers de la bande dessinée québécoise et étrangère, des critiques, et vous pouvez donc les retrouver à compter de demain en journée. Alors, codeculture.tv, c'est le nom du site, et également, ben, lorsqu'il y aura parution de critiques, de nouvelles critiques BD, nouvelles segments BD, on le mettra également sur le blog de l'émission, alors, qui redirigera vers ce site, donc codeculture.tv. Ah ben voilà, la mention est faite, et tout à l'heure, en parlant de M. Rabagliati, je disais, c'est un album qui était bien attendu pour l'automne prochain. Il y en a d'autres albums qui étaient très attendus dans la sphère québécoise, et notamment, il y avait le tome 5 de la série Les Nombris. On a le plaisir de rencontrer Maryse Dubuc pour nous parler de ce volume et des nouveaux éléments qu'on développe et des enrichissements qui sont faits à cette très populaire série.
Maryse Dubuc, bonjour.
Bonjour.
Alors, lancement tout récent, c'est le marathon un peu qui commence pour vous. D'ailleurs, en fait, tournée promotionnelle, j'imagine, autant au Québec qu'en Europe, qui est à l'horaire, là.
Ben oui, exceptionnellement, cette fois-ci, on a décidé de commencer par le Québec et on a eu la possibilité de le faire. Ça nous a été offert par notre éditeur. Donc, on fait la promo ici, puis ensuite, c'est ça, on prend l'avion pour Belgique et France et puis aussi l'île de la Réunion.
Donc quand même, ça fait un beau parcours.
Oui.
Et est-ce qu'on a l'impression, parce que je le disais d'entrée de jeu, c'est un album qui était très attendu. Les premiers tomes, les quatre premiers ont très très bien fonctionné un peu partout dans la francophonie. Est-ce que ça mène une certaine pression quand on arrive au cinquième, en sachant justement qu'il y a des fans, qu'il y a des gens qui aiment, qui suivent tout ça et qui ont très hâte justement de voir ce que vous allez leur offrir?
Ah ben il y a un peu les deux côtés de la médaille. Oui, c'est sûr que de savoir que c'est aussi attendu, que les gens sont vraiment aussi impatient de le lire, ça met une certaine pression, mais d'un autre côté, ça met aussi en confiance. Les gens ont apprécié les quatre premiers. Jusqu'à maintenant, on a réussi à les satisfaire, à les amuser. Donc, on se dit un peu, bon, pourquoi cette fois-ci ce serait différent? Donc, mais ça, c'est vraiment très variable, hein. Dans la création, il y a des journées où on est en confiance, il y a des journées où on doute. Donc, il y a vraiment les deux possibilités.
Et j'ai l'impression, en voyant aussi l'évolution de la série, bon, avec le tome 4, on a pris vraiment plus une tangente album, justement, qui est affirmée à nouveau avec le tome 5, où la structure strips ou gag à une planche des premiers opus de ce qu'on voyait dans Safari, notamment, ben, on l'a pas mis de côté, mais on a amené la série ailleurs, là.
Ben oui, mais c'est ça, au départ, c'était vraiment une série uniquement à gag, donc, je dirais dans les 10 premiers gags, mais très vite, l'envie d'ajouter un fil rouge à tout ça, c'est mêlé à tout ça. Donc, oui, dans le premier album, c'était vraiment un simple fil rouge, donc une toute simple intrigue. Mais d'album en album, on voit que l'intrigue s'épaissit, les personnages prennent de la profondeur. C'est une tendance qui nous vient naturellement, une envie comme ça d'aller un petit peu plus loin, d'aller rechercher au-delà de l'émotion, du rire et de l'amusement, d'aller chercher d'autres émotions, l'envie, la peur, la crainte, vraiment la pitié, ou vraiment des émotions qui sont peut-être un peu moins attendues dans le cadre d'une série humoristique, mais qui justement viennent mettre un contrepoint à la légèreté apparente, si on veut, de la série, alors qu'il n'y a pas que ça dans Les Nombris.
Oui, puis j'ai l'impression aussi, en fait, qu'un gag va fonctionner même encore mieux quand on s'est vraiment attaché au personnage et de se donner une structure album, une structure plus axée sur l'histoire. Ben ça permet aussi de créer peut-être ce rapprochement-là, de faire le parallèle entre nous et Karine, nous et Dan, etc., etc.
Oui, c'est ça. Ça fait des gangs qui fonctionnent mieux. Ça fait des personnages auxquels on s'attache plus, mais ça fait aussi, c'est ça, des gangs qui ont une raison d'être. C'est pas des gangs qui sont empilés les uns derrière les autres comme ça, sans véritable raison. On peut pas prendre une page du tome 5 puis l'amener dans le tome 2 sans que personne s'en rende compte. C'est vraiment, c'est ça, c'est presque rendu d'abord une histoire qui est charcutée, si on veut, en petites histoires, petites sous-histoires d'une page chacune avec une chute. Puis je pense que ça nous permet aussi parfois, dans certains cas, d'aller toucher des thématiques différentes, des thématiques qui normalement seraient pas partie d'une histoire, des thématiques qu'on voit peu en bande dessinée. On parle quand même dans les nombrils parfois de suicide, de parents qui sont totalement démissionnaires, des trucs qui sont vraiment très très durs, mais comme on fait de l'humour tout en faisant une histoire, ben l'humour permet un peu de désamorcer tout ça, puis de l'amener un peu, de le rendre acceptable, si on veut, pour des publics très, très différents, là, autant des lecteurs adultes que des lecteurs qui sont parfois très jeunes.
Et même quand même, dans la structure, vous le mentionniez, il y a encore des gags, il y a encore des planches, il y a encore ce rythme strip-là qui est présent, mais qui est vraiment plus englobé à l'intérieur de l'histoire. Donc, ça doit être quand même, je me disais, côté mécanique d'écriture, un bon défi, en fait, dire, bon, OK, il faut que je développe quand même mon histoire, il faut que ce gag-là ait sa raison d'être, comme vous disiez, mais en même temps, il faut aussi avoir ces petits punchs-là qui arrivent de manière sporadique ou régulière, qui font sourire, qui font rire, et qui apportent à l'histoire. Ça devient un bon défi, là.
Oui, c'est extrêmement complexe. C'est vraiment un casse-tête à plusieurs niveaux. Heureusement qu'on est deux pour travailler au scénario, deux têtes valent mieux qu'une. Mais aussi, en fait, c'est qu'on a une vision de l'histoire complète d'un album. Et puis, au fur et à mesure qu'on écrit les gags, forcément, il faut faire des détours parfois pour arriver à rendre une situation humoristique, ce qui nous éloigne de notre premier objectif, si on veut, avec l'histoire. Et puis, ça finit par réintervenir en histoire, influencer le cours des événements. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Là, on ne pourrait pas, par exemple, dans le cas des nombrils, on ne pourrait pas écrire le scénario de la première à la dernière page sans avoir vu si ça fonctionne bien dans le gag. Là, il faut vraiment travailler les deux de pair.
Puis voir venir un peu, savoir où on veut terminer, mais dans le fond, se laisser quand même une liberté aussi dans la création, dans la mise en page, dans la scénarisation, dans le fond.
C'est ça, c'est une improvisation semi-contrôlée, là, vraiment, on essaie de rattraper les choses, puis on vit avec les erreurs, si on veut, de parcours, là, les détours qui nous sont imposés par la forme, mais je pense qu'au final, ce que ça fait, c'est que ça enrichit tout ça, puis ça finit par faire un tout qui se tient de... relativement bien.
Et parfois, j'ai l'impression, en fait, quand on parle de séries humoristiques, les personnages restent quand même assez similaires d'un album à l'autre. C'est simplement des aventures, des péripéties qui leur arrivent. Dans ce cas-ci, tout particulièrement dans le tome 5, vous avez dit, ben, en fait, ça donne l'impression que vous êtes donné le droit, justement, de transformer littéralement là, l'un de vos personnages principaux, avec les vêtements, l'attitude et le reste. Donc, c'est un peu une Karine 2.0 que vous avez décidé d'offrir.
Exactement, c'est ça, Karine qui, depuis le début dans la dynamique du trio, était la faire valoir, la victime, donc celle vraiment qui réparait les pots cassés. Maintenant, elle revient avec un nouveau look, une nouvelle attitude, et puis ça remet en question tous les personnages autour d'elle. Donc, ça a complètement modifié la dynamique. Dans un album avec une histoire complète, c'est relativement simple de faire ce genre de changement-là, mais effectivement, dans un album d'humour, ça change vraiment la dynamique entre les trois.
Ça renouvelle, j'imagine, aussi l'inspiration pour vous. La dynamique à trois était claire. Maintenant, OK, on brasse un peu les cartes. Qu'est-ce qu'on réussit à faire sortir de ça?
Ben c'est ça. Au départ, on n'était pas certains de notre coup. Mais on se met en danger à la fin de chaque album. Ça fait un peu partie du plaisir aussi. Souvent, on termine un album, puis les lecteurs vont nous dire « Ah, mais dites-nous un peu ce qui se passe dans le prochain. » Ben honnêtement, on le sait pas parce qu'on est dans le même cas que les lecteurs. Bon, c'est sûr qu'on a une longueur d'avance parce qu'on a placé des indices pour certaines possibilités pour la suite, mais la fin d'un album, et c'est toujours vraiment un cliffhanger, c'est volontairement, on laisse le lecteur dans le suspens et on se laisse nous-mêmes dans la même situation parce que ça fait partie du plaisir de créer pour nous.
Et le jeu physique aussi, justement, je parlais tout à l'heure du look, ça permet, j'imagine, de représenter visuellement les changements intérieurs que votre personnage vit, donc c'est un peu une extension de ça.
Oui, exactement, c'est ça. Dans le fond, c'est que Karine, c'est vraiment un personnage qui était caractérisé par sa naïveté depuis le début de la série, et puis là, elle s'est vraiment bien fait avoir dans le tome 4. Et ça l'a forcé à s'éloigner de sa propre naïveté puis pratiquement devenir quelqu'un d'autre juste pour pouvoir un peu remettre les choses en place puis remettre donc c'est Mélanie qui était son ennemie si on veut la remettre à sa place. Ça l'a forcé à quelque part se mettre en contact avec une partie plus sombre d'elle-même. Et puis à partir du moment où on la voit habillée en noir, là, il y a vraiment une connexion qui se fait entre vraiment comment elle se sent intérieurement et puis de quelle façon les gens peuvent la percevoir aussi. Mais d'un autre côté, dans le tome 5, justement, on s'amuse avec cette dualité-là de Karine qui cherche son identité là-dedans, qui est à la fois l'ancienne Karine naïve et la nouvelle qui refuse totalement de continuer à être une victime.
Et quand on disait tout à l'heure justement que d'avoir des personnages bien, bien tridimensionnels pour apporter des gags, ça devient un terreau quand même assez fertile. C'en est un bon exemple où on ramène justement l'ancienne personnalité de Karine avec le nouveau costume avec la version 2.0, puis subitement on a un punch qui se crée naturellement. Là, c'est...
Oui, ben c'est ça. On s'est bien amusé là. Par exemple, c'est ça, il y a un gag où on voit, on exprime la dualité là, de Karine avec une espèce d'intervention de son ancien elle-même qui vient discuter avec son nouveau elle-même. Là. Donc physiquement, on les voit les deux qui discutent l'une avec l'autre, puis on comprend que à l'intérieur d'elle-même, Karine à ce moment-là est pas nécessairement en paix. C'est pas si facile que ça dans la vie de changer, d'évoluer, de devenir. D'aller au-delà de soi-même.
Et dans les nombris, de manière générale, ce que j'ai toujours trouvé qui était une force, à mon sens, de votre série, c'était la dynamique des dialogues, en fait, qui sonnent vrais, mais aussi les dialogues en trio qui fonctionnent, où il n'y a pas de personnages, outre, bon, volontairement, mais qui s'écrasent en termes de présence et le reste. Donc, vraiment, de réussir à créer ce dialogue dynamique-là, rythmé, entre vos trois protagonistes, là.
Oui, c'est ça, les nombris, c'est vraiment un trio. Là, quand on nous demande c'est qui le personnage principal, c'est difficile à dire. Dans les derniers albums, il y a Karine qui a été mise un petit peu plus de l'avant, mais c'est tout à fait possible que dans les prochains albums, ce soit un autre personnage qui ressorte davantage. Mais c'est ça, au niveau de la dynamique, c'est aussi au niveau de l'humour, ça nous aide d'avoir trois personnages qui se complètent comme ça, mais qui sont aussi tellement différents. À chaque fois qu'on présente une nouvelle situation, chacun des trois personnages a une vision de ce qui se passe, a quelque chose à dire là-dessus. Ça nous vient naturellement et ça nous tente vraiment comme auteur à chaque fois de vraiment exprimer la perception de chacun des personnages de ce qui arrive. Puis en poussant un petit peu plus loin à chaque fois la réflexion de chacun, c'est là où vient l'humour, là, parce que chacun étant très différent, en le poussant plus loin, ça devient suffisamment extrême pour provoquer le rire.
Et donc, on peut découvrir tout ça, on peut découvrir où en sont donc ces nombris avec le tome 5, Un couple d'enfer, c'est chez Dupuis. Et Marie-Yves Dubuc, en terminant, est-ce qu'on a déjà un échéancier pour le 6 où on se dit, regarde, on va faire la promo, on va prendre une pause, puis après ça, on verra?
Il n'y a pas d'échéancier, mais c'est sûr que l'éditeur essaie de nous convaincre de viser 2013. C'est possible la première moitié de 2013 pour le tome 6. Mais en même temps, c'est la création, hein. C'est toujours difficile de fixer un échéancier, comme vous le dites, mais on a décidé, dans le fond, notre choix, c'est d'y aller pour la qualité, donc plutôt que de se presser. C'est un peu cruel, mais comme on le dit derrière les albums, la vie est cruelle.
Voilà. Marie-Yves Dubuc, merci beaucoup.
Ben, c'est un plaisir.
Dernier segment de notre petite émission, c'est l'heure rétrospective. On a le plaisir cet automne de recevoir l'auteur Hervé Bourris, qu'on connaît notamment pour sa série de petits livres rock, petits livres Beatles. Il était de passage à Québec pour divers événements cet automne et il est venu faire son tour ici en studio à La Vie en BD. Et on a eu l'occasion de parler de ses différents bouquins avec lui. Hervé Bourris, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'aimerais peut-être commencer avec, en fait, les petits livres, cette série, en fait, vous en allez d'ailleurs vers un troisième tome, je crois, avec la République française. Oui. Et en fait, ça me faisait penser, en fait, lors de son passage à Montréal, Art Spiegelman disait qu'un des éléments qui faisait le succès de la bande dessinée, c'était sa capacité, en tant que médium, à synthétiser, à vulgariser l'information, à expliquer les choses de manière simple, dynamique, vivante. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez?
Oui, en sachant que le travail pédagogique qu'on peut, enfin les qualités pédagogiques qu'on peut trouver à mes livres sont un peu comme en satellite, parce que moi je travaille pour moi principalement. Donc si ça plaît aux gens aussi, les gens y trouvent des qualités pour y découvrir des choses, pour apprendre des choses, c'est un peu par accident finalement, parce que c'est des livres que je fais vraiment pour moi, et en me documentant j'apprends plein de choses et je suis très content. Mais qu'après ça... on trouve ce genre de qualité, ben je suis très content, mais c'était pas volontaire, quoi, en fait. Mais je pense que c'est vrai, il a raison sur ce sujet. Moi, j'ai appris plein de choses avec la bande dessinée.
Et en parcourant les petits livres, en fait, ce que j'aime bien avec cette série-là, c'est que d'un côté, on est confronté avec notre propre chronologie, nos propres découvertes et nos propres opinions sur ces groupes-là, et on les met nécessairement en parallèle avec les vôtres, parce que vous l'avez mentionné, c'est un compte-rendu, oui, mais c'est très impressionniste, c'est très éditorial aussi.
Et c'est très subjectif, en fait. C'est vraiment... notamment pour les années, enfin pour les années à partir desquelles j'ai commencé à écouter de la musique, parce que bon, ça commence dans les années 50, donc là j'étais pas né, je suis né en 74, donc forcément à partir notamment des années où j'ai commencé à écouter de la musique vers 88 jusqu'à aujourd'hui, là c'est vraiment très très subjectif. Après c'est des choix aussi subjectifs, mais comme je les ai pas vécus, c'est un peu plus on va dire historique, quoi, pour le coup. Mais je tiens absolument à ce que ça reste subjectif et que bon, ça a pas une visée universitaire, voilà, ou universelle. Ça le devient peut-être par accident, comme je le disais tout à l'heure. Mais au début, c'est pour parler de mes goûts à moi, quoi.
Exactement, mais il y a des bons accidents aussi.
Mais très bien, mais tant mieux.
et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a donné envie de partager ces livres-là? Parce que en fait, je commence avec ceux-là parce que nécessairement, j'ai l'impression que pour beaucoup aussi, on vous a découvert avec la série des petits livres, justement. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un volume sur le rock, ensuite un volume sur les Beatles?
Alors moi, j'avais une maladie, c'est que dès mes 14 ans, je lisais pas mal de choses sur le rock que je découvrais. Donc je faisais des listes de discographies de groupes, je faisais des espèces de plans d'arbres généalogiques des groupes avec les musiciens qui allaient d'un groupe à l'autre. Voilà, donc je passais des soirées comme ça à noircir des feuilles avec des listes discographiques, les meilleurs albums par année, tout ça. Pendant des années, mes parents étaient très inquiets d'ailleurs. et puis un jour, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'en faire quelque chose de toutes ces soirées perdues à écrire des listes absurdes. Et donc j'ai eu cette idée-là. Et avant j'avais fait une série qui s'appelait le Stereo Club, qui parlait de la musique aussi, et c'était une fiction par contre, et j'en étais pas très content. Il me semblait que la fiction c'était pas forcément, enfin, je pensais que c'était pas forcément le meilleur moyen de parler de cette musique là. Il me semblait qu'un truc plus éclaté, même si mes livres sont organisés de façon chronologique, le côté patchwork allait donner une dynamique qui était plus cohérente par rapport au rock, quoi. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de dessiner sans croquis, pour que le dessin soit le plus spontané possible et le plus brut, quoi, justement.
Oui, pour donner l'impression que c'est quelque chose qu'on aurait pu gribouiller dans coulisses dans un concert.
Exactement. Ouais. Parce que moi, j'ai un dessin qui se fige si je crayonne en dessous. Donc, en fait, j'ai fait ça pour moi, et puis j'ai commencé à le proposer à des éditeurs qui l'ont refusé, et alors que je m'y attendais pas du tout, je l'ai proposé à l'éditeur avec qui je travaillais à l'époque, Dargaud, qui est quand même un gros éditeur qui sort plutôt des livres classiques, et contre toute attente, il m'a appelé tout de suite pour me dire qu'il était intéressé, qu'il voulait le faire. Donc voilà, c'est assez surprenant.
Oui, et après ça, de là, ça s'est emboîté, donc le livre se réalise, après. Le Beatles après aussi, qui est un peu, j'imagine, dans le même esprit, c'est un groupe que vous écoutiez, que vous appréciez.
Alors c'est deux livres qui se ressemblent forcément, parce que c'est aussi le alors là, d'un côté c'est l'histoire du rock des origines à aujourd'hui, et de l'autre côté c'est les Beatles de 1940 à aujourd'hui aussi. Ils ont quand même été faits de façon différente, parce que autant le rock c'est justement un patchwork d'impressions subjectives, de... un mélange d'images, de pochettes, de photos, de voilà. C'est un peu plus éclaté, alors que pour les Beatles c'est un peu plus, on va dire, scientifique, parce que de 1940 à aujourd'hui, je retrace vraiment leur histoire en recoupant les informations. C'est un truc plus journalistique, en fait, avec un dessin plus réaliste. Je chronique les disques, donc c'est un peu plus structuré. Et autant on peut picorer des informations au hasard dans le livre rock, autant pour le livre Beatles, c'est quand même une histoire qui se suit. Et finalement, on retrouve une narration classique, enfin pas classique, mais une narration de bande dessinée, puisque ce sont des personnages qu'on suit d'année en année, quoi.
Effectivement, donc la structure, en fait, le fait de se consacrer à un groupe, nécessairement, ça force une structure narrative, parce que ça devient l'histoire de ce groupe-là, nécessairement. Ouais. Tandis que l'histoire d'un genre, mais surtout le rock, on vous parlait d'aspect patchwork, on voit la hiérarchie des genres, des styles, des sous-genres, et c'est un patchwork aussi, ces univers-là, donc c'est un peu à l'image de leur sujet.
Oui, absolument, oui. Et quelle était la question?
Non, c'était une réflexion.
D'accord. Elle était très, très bonne.
et je me demandais, en fait, dans le travail en amont, vous dites, une fois qu'il a été accepté, autant pour les Beatles que pour le rock, reste que il doit avoir une bonne recherche documentaire aussi, avant de dire, OK, on se lance sans crayonner, il a dû quand même avoir un bon plan.
Le dessin, c'est une étape minuscule, en fait. Non, c'est presque un divertissement, quoi. C'est vraiment en fin de course, quoi, que je fais ça. Avant, pour le Live Beatles, j'ai dû avoir 3 mois à temps plein de... Alors moi, j'ai pas mal de bouquins, évidemment, parce que c'est un truc qui m'intéresse, comme le rock, depuis mes 14 ans, que je suis obsédé par les Beatles, donc j'ai pas mal de choses, j'ai racheté des livres, j'ai recoupé des informations, parce qu'il y a pas mal de livres sur le sujet des années 60 à 70, qui ont été écrits par les publicistes des Beatles à l'époque, et c'est un peu n'importe quoi. Donc il faut vraiment tout relire et tout revérifier. Donc il y a eu un gros travail de doc, et puis après, effectivement, je note plein d'informations sur des documents Word, on va dire le nom, année par année, et après je fais le tri, et c'est souvent le document, aussi la photo, à partir duquel je vais faire le dessin, qui va décider de l'importance de l'information. Donc c'est un peu au bout du compte, c'est quand même le dessin qui choisit la hiérarchie des informations, quoi.
Donc il vient à la fin dans l'exécution, mais ouais, il dirige un peu toutes les opérations.
Mais finalement, ouais. Parce qu'avant l'exécution, il y a quand même une étape de storyboard, on va dire, où j'essaye de placer,
oui, puis
les pages, quoi. D'organiser les pages, ouais.
Oui, parce qu'en même temps, vous vous amusez aussi avec la structure. Je veux dire, c'est pas une suite de cases. Il y en a des plus grosses, des plus petites. On joue avec le format. Il y a une architecture aussi dans chacune des pages.
Il y a une hiérarchie, une architecture, une structure, qui évolue en fonction de l'importance de l'information.
Et dans les choix qu'on fait, on le mentionnait en début d'entrevue, Hervé Bourris, bon, c'est très personnel comme rendu, mais reste que quand on parle des Beatles ou du rock, c'est des genres qui ont des fans invétérés. Est-ce qu'on a peur des fois de choquer un peu?
Oui, non, justement, il doit sortir à peu près 1 milliard de livres sur les Beatles tous les ans, donc il faut quand même, quand on est un minimum exigeant, essayer de faire un truc un peu original, quoi. Donc déjà, je savais que je voulais parler de 1940 à aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas arrêter l'histoire à 1970 à la séparation, surtout pas. Parce qu'après, il y a des phases un peu plus ingrates chez les ex-Beatles, on va dire. Mais quand même, il y a des hauts et des bas, des montagnes russes. Mais justement, ces phases ingrates sont intéressantes parce qu'après, ils peuvent rebondir. Et puis c'est aussi la création du mythe dès la séparation. C'est intéressant comment ils relancent le commerce des disques des Beatles régulièrement, à coup de compilation, à coup d'anthologie. Ça, c'est intéressant aussi. Et j'ai un peu perdu le fil. Pourquoi je disais ça? Subjectivité, voilà, oui. Absolument. Et donc, j'ai retrouvé. Et je voulais à la fois raconter de façon objective les faits et chroniquer aussi chaque disque de façon personnelle et subjective. Et quand un disque me semble moins bon, je le dis. Alors, j'argumente aussi, je vais pas non plus dire ça c'est mauvais, point final.
Vous le faites, je pense au petit livre du rock, par exemple, où il y a muse égale flatulence.
Oui, alors.
À un moment donné. Donc, vous vous gênez pas, là.
Mais justement parce que je ferais pas un petit livre sur Muse, quoi, par exemple. Donc là, c'était un peu plus, un truc d'humeur, quoi. Mais pour les Beatles, tout est un peu plus, tout est plus argumenté. Et si je peux dire que, par exemple, l'album Sgt Pepper, qui est vraiment très bon, évidemment, me semble un peu plus froid et finalement ne fait pas partie de mes albums préférés des Beatles, je le dis, quoi. Mm-hmm. Quand je dis qu'un album de Ringo est mauvais, je le dis aussi, quoi. Ça a pu m'être reproché par les fans hardcore qui trouvent que tout est bon, mais si on ne parle pas des choses mauvaises, comment est-ce qu'on peut considérer quelque chose de bon est bon, quoi?
Nécessairement, la production de quelqu'un, il y a du meilleur, il y a du moins bon.
Il faut l'accepter, et puis c'est pas des dieux, voilà. Mm-hmm. C'est des êtres humains, les Beatles, il faut revenir sur Terre aussi, quoi.
Et vous le mentionnez tout à l'heure aussi, monsieur Bourris, côté dessin, vous avez décidé d'aller avec justement Sans Crayonner directement.
Ouais.
Est-ce que c'est dans un souci aussi de distancer ces petits livres-là de vos autres BD? Je mentionnais une pléiade de titres tout à l'heure. Est-ce que c'est dans un souci de distancer un peu les deux genres, les deux...
Je sais pas vraiment. C'est vraiment dû à la musique dont je parle, quoi.
Mm-hmm.
Puisque c'est du rock, il me semble absurde de... Pour moi, le rock, c'est quand même une chanson de 2 minutes 30 qui doit être presque crachée sur scène, devant un public en sueur. Enfin, il y a une espèce d'échange, il y a une violence, il y a une immédiateté, un échange entre le public et ça me semblerait absurde de passer une journée sur un dessin, quoi.
Mmh.
Qui retrace ça. Moi, je veux que dans mon dessin, on ressente cette espèce d'énergie et d'immédiateté, quoi. Alors, des fois, c'est raté, je le recommence. Mais je préfère ça que de faire un crayonné et que ce soit trop figé, justement.
Ouais, donc, voilà. de perdre la spontanéité.
Exactement, ouais. D'ailleurs, j'ai des collègues qui sont même punk, qui adorent cette musique-là et qui peuvent passer des jours et des jours à faire une case de bande dessinée, qui sont auteurs de bande dessinée. Et je leur ai dit que je trouvais ça complètement incohérent, quoi. Ben voilà. Après, c'est un truc aussi qui est subjectif, c'est mon avis. Bon.
Oui, ben, mais en même temps, c'est ce qui définit aussi l'identité d'un livre. C'est qu'à un moment donné, on prenne un recul, on dit, bon, OK, visuellement, comment je veux qu'il soit ce livre-là en accord avec mon sujet. Donc, il y a une logique de démarche, dans le fond.
Voilà, c'est ça, ouais. C'est la mienne. Donc, après, je sais pas si c'est la bonne, mais je pourrais pas faire autrement.
En terminant, mais en fait, j'ai envie de dire, faudrait vous garder que pratiquement une heure, ou faudrait que vous reveniez éventuellement pour parler du reste. On a parlé que des petits livres. Alors peut-être qu'on pourrait conclure avec eux, dans le fond, le petit livre Rock, le petit livre Vital, le petit livre République française. Ouais. J'aimerais voir, est-ce que vous avez l'impression que ça va être aussi peut-être facile, agréable, ou de réussir à rendre cette esthétique-là du rock des Beatles, mais dans la politique?
Bah, il suffit de remplacer Mick Jagger par Jacques Chirac, quoi. C'est assez simple, finalement. C'est c'est exactement le même procédé, en fait. Je voulais aussi donner de la vie à un truc qui est souvent considéré comme triste et, ça l'est parfois, faut avouer, hein. Un peu déprimant, des fois, la vie politique. Enfin, dans tous les pays, je pense. Mais, je voulais donner cette vie aussi, dans ce livre. Donc c'est vraiment ça, c'est remplacer Mick Jagger par Jacques Chirac et de retrouver les petites anecdotes marrantes, la grande, la petite histoire. C'est exactement la même chose, sauf que je parle de la 5e République française.
Alors bon, on découvrira aussi comment tout ça a réussi à se faire pour l'instant. Donc plusieurs livres à se mettre sous la dent. Hervé Bourris, merci beaucoup.
Merci.
Et voilà ce qui termine donc ce petit survol de quelques entrevues réalisées l'année dernière. On se rendez-vous la semaine prochaine avec la rétrospective des meilleurs albums 2011 de nos collaborateurs. Alors c'est un rendez-vous donc pour une autre édition de La Vie en BD vendredi prochain à compter de 17h30. Et évidemment, dans quelques instants, vous aurez le plaisir d'entendre l'équipe de 100% Dynamite de retour aussi pour 2012.